Voici Dan Bigra.
Alors, je vous répète la question aujourd'hui. Avez-vous fait preuve de résilience? Avez-vous fait preuve de créativité pour avec votre famille depuis la pandémie? Ben, c'est pas évident pour personne. On sait très bien que c'est une pandémie qui va rester dans les livres d'histoire. Donc, il faut s'adapter, il faut apprendre. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous avez fait? Vous réussissez à faire, mais ce que vous avez raté, il faut essayer. Hein? Je suis toujours aussi avec Julie Dupage, qui est actrice, animatrice et blogueuse et mère de deux ados et épouse d'un mari qu'elle m'a accusé de ne pas nommer. Mais ce qui est aussi une job, mon Dieu, on dirait un homme, là, c'est quelque chose. Et on est aussi avec Myriam D. Asselin, qui est sexologue et coordonnatrice chez Tel Jeune. Bonjour, Madame Asselin.
Bonjour.
Alors, vous êtes chez Tel Jeune, ben déjà, vous avez un gros... Je vous aime déjà.
Ah, bon, ben tant mieux, écoutez. Vous connaissez nos services.
Ben oui, je connais vos services. Ils sont absolument primordiaux. Nos ados, nos jeunes sont très, très, très en détresse. Avez-vous juste une couple de statistiques? Je sais que les chiffres, on ne parlera pas toute l'émission de ça, mais est-ce qu'il y a eu plus d'appels depuis de la COVID? Avez-vous des jeunes qui vous appellent plus?
Oui, certainement. Dans le fond, chez Tel Jeune, on a observé une hausse des contacts de 30% pendant les périodes qui ont été touchées par la pandémie. Donc, il y avait des centaines de jeunes qui nous contactaient tous les jours. Une hausse de 30%, c'est significatif. Puis en même temps, c'est positif aussi que les jeunes se retournaient vers des ressources comme Tel Jeune pendant ce moment stressant. Donc, on était bien occupés, mais bien contents que les jeunes aient ce réflexe-là. Oui. C'est important qu'ils aillent chercher de l'aide. Mais oui, 30% d'augmentation. Puis, les sujets abordés, c'était vraiment lié à la santé psychologique. Donc, l'anxiété, la déprime, oui. La tristesse, un sentiment de solitude aussi. Puis, généralement, ces thèmes-là, ça représente environ 40% de nos appels, de nos textos, de notre
clavardage. La solitude de nos jeunes, ah oui, c'est énorme.
Oui, c'est ça, exact.
C'est énorme. Je rêve où il y a plus de jeunes femmes qui appellent que de jeunes hommes.
C'est vrai. Il y a environ 80% de filles qui appellent ou qui nous contactent chez Tel Jeune, puis 20% de garçons. C'est la même chose à la ligne parents, parce qu'il y a le penchant pour les parents aussi. Donc, ligne parents, c'est aussi une majorité de mères qui nous appellent. Donc, c'est sûr que la demande d'aide pour les garçons, elle est moins évidente. C'est comme si les garçons, il y a plus de stigma autour de l'idée de demander de l'aide.
Oui. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans notre éducation, dans notre système de société, de comment on passe nos valeurs à nos enfants pour que et les plus vieux et les plus jeunes, chez les hommes, pensent qu'ils peuvent tout régler eux-mêmes, même en grande détresse, et qu'ils appellent beaucoup moins pour demander de l'aide. Je trouve ça extrêmement grave. On en parle beaucoup ces temps-ci, l'histoire de l'homme macho, tough, mais qui ne dit pas grand-chose. Ça va faire, à un moment donné, les hommes sont d'autres choses que ça. Nos jeunes enfants, gars, sont autre chose que ça. Puis moi, je peux vous dire que chez les jeunes, j'en vois de la détresse. Je vous parle même pas du refuge. Je vous parle à l'école. Et ces jeunes-là sont encore formés pour penser qu'ils sont tough, comme si tough avait à voir avec la détresse.
Oui, bien, c'est sûr que socialement, les filles sont socialisées pour exprimer leurs émotions. Les garçons, on dirait qu'on va même inconsciemment moins valoriser ça. Donc, ça a des impacts dans leur vie, ça, c'est sûr. Puis c'est important de les rejoindre, ces jeunes garçons-là, puis qu'il y ait des modèles aussi d'hommes qui osent demander de l'aide, puis de ne pas voir cette demande d'aide-là comme un signe de faiblesse, mais au contraire, comme un signe de maturité et de force aussi. Ça prend du courage pour demander de l'aide. Donc, il faut leur envoyer ces messages-là.
Vous avez, évidemment, c'est des appels de jeunes qui sont soit déprimés ou très angoissés. On va parler de colère parce qu'on sait très bien que l'anxiété, d'abord, on le constate en ce moment. Je répète, allez voir le ton sur les médias sociaux. J'ai jamais vu ça à ce point-là. Si violent, si méchant, tout le monde. On a toute la fuse courte. Je veux même pas m'exclure de ça. Je suis pas mieux que les autres. Mais évidemment, on est anxieux. Donc, l'anxiété se transforme en colère. chez certaines familles, comme celle de Julie Lapi. J'aime tellement dire Julie Lapi. ça se passe quand même bien. Ils sont là, ils parlent les uns aux autres. Ils ont leur mauvaise journée. Ça ne veut pas dire qu'on est des anges, là, mais ils ont leur mauvaise journée, mais ils s'en occupent. Sauf qu'il y a des familles qui sont plus démunies, qui arrivent moins à demander de l'aide. Et là, la colère monte. Et puis là, vous devez avoir des appels qui concernent de la violence.
Oui, exactement. Ben, en fait, des crises comme celle du coronavirus, le confinement, ça a amené beaucoup de... Ça a exacerbé toutes les difficultés. Donc, toute la gestion des conflits à la maison était plus difficile. Les parents et les adolescents avaient moins de capacité à communiquer. C'est comme si le stress, l'anxiété, la période difficile faisait qu'on perdait nos bonnes façons de communiquer. Donc, oui, ça peut escalader en conflit. Ça peut être exprimé avec de la colère, effectivement. Effectivement. Et c'est normal parce que tout le monde était à cran, tout le monde vivait des situations vraiment particulières, tout le monde s'adaptait. C'est difficile de s'adapter soi-même puis de s'adapter aux autres. Les jeunes sont aussi sont des éponges au stress de leurs parents. Donc, il y avait vraiment ça
tellement
qui sortait. Là.
Nos enfants, on leur passe pas ce qu'on veut, on leur passe ce qu'on a. C'est comme ça que ça se fait. Et là-dedans, ben, il se passe nos mauvais tics. Et puis, si on est angoissé dans la vie, on va passer ça à nos enfants aussi. C'est normal, c'est humain. Ceci dit, là où, par exemple, l'anxiété peut faire monter de la colère, c'est plate quand ça arrive entre nous autres, mais on est capable de se réparer après. Excuse-moi, je te s'énerve, je me suis énervé, on peut se pardonner, des fois ça peut prendre 3 jours de bouderie, mais on va le faire. Mais là, je parle même pas de parents violents d'incidents violents qui sont... De la violence sur les enfants qui est généralisée. Mais est-ce que ça a grimpé pendant la crise de la COVID?
En fait, je pense que oui, on a eu un peu plus d'appels par rapport à une violence le plus marquée, des abus physiques. On a eu plus de contacts en ce sens-là, quoique ça ne fait pas non plus partie de la majorité des contacts là, chez tel jeune et les parents. Mais c'est sûr que les familles vulnérables, l'était encore plus. Donc, les familles à défi, c'est encore plus difficile. C'est comme si on met au surligneur jaune les difficultés là, de tout le monde. Donc, oui, c'est certain. Mais je pense que, parce que vous parlez de la colère, mais je pense qu'avant de vouloir... Souvent, on veut se débarrasser de la colère, hein, comme si c'était une émotion négative, alors que la colère est aussi une émotion complètement normale et légitime. Puis avant de vouloir s'en débarrasser, il faut aussi l'accepter, l'accueillir, se demander pourquoi, puis être capable
ça
de...
Ça prend cet exercice-là pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire.
Exactement. On peut pas être résilient du jour au lendemain. Il faut qu'on commence par s'accepter comme on est puis pas juger. Après, on est résilient.
Oui.
Mais on peut pas être résilient en 5 secondes. Là.
Julie, est-ce que tu as déjà pensé à appeler à un moment donné dans ta vie une ressource comme ça?
Ben c'est sûr. Oui, bien sûr. Puis en parlant de tel jeune, mes enfants savent très bien où sont les numéros de téléphone de ces organismes pour les aider, puis les sites web et tout ça. Puis on en parle souvent parce que moi, je pars du principe que peut-être mes enfants, à un moment donné, c'est pas à moi qui vont avoir envie de parler, mais peut-être à d'autres parce qu'il y a comme une espèce de détachement aussi. Puis peut-être qu'ils...
Il y a plein d'affaires qu'on ne dit pas à ses parents. C'est parfaitement normal.
Voilà, c'est pour ça que c'est toujours quelque chose dont on a parlé en famille. Puis j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, ça me choquera pas. Vous êtes même pas obligé de me le dire là. Mais ils savent où sont les numéros, où sont les sites web et tout ça. Mais je voulais juste revenir à la colère parce que, écoute, je fais vraiment une petite parenthèse, Dan. Mais quand mes enfants étaient tout petits, j'ai une amie qui m'avait suggéré un livre qui s'appelle justement Grosse colère. C'est un livre pour enfants, pas un livre pour adolescents. C'est vraiment pour enfants. Mais c'est le petit Robert. Le petit garçon s'appelle Robert et qui à un moment donné rentre à la maison, il n'est pas de bonne humeur, il aime pas ce que sa mère lui a fait, il a fait, je sais pas, des épinards, je sais pas trop quoi, là, c'est un bout de temps que je les ai fait à mes enfants. Et là, son père lui dit, va dans ta chambre. Et là, Robert ressent la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui, à un moment donné, sort de lui et devient comme un monstre, c'est imagé comme un monstre. Et la colère brise tout dans sa chambre. Mais elle brise même son jouet préféré, son camion préféré. Et là, tout d'un coup, Robert comprend qu'il faut qu'il maîtrise sa colère, que c'est correct de l'avoir, qu'il faut qu'il la maîtrise parce que la maudite colère, elle a même brisé son jouet préféré. Mm-hmm. Écoute, ce livre-là... Là,
quelle belle analogie, c'est fantastique parce que c'est vraiment une analogie. Ça s'adapterait aux adultes, carrément. Mm-hmm.
Là, mais complètement, vite, complètement. Mais écoute, j'ai dû la lire des centaines de fois à mes enfants, notamment mon fils qui était peut-être plus colérique que ma fille, justement pour qu'ils comprennent que c'est correct d'être en colère. Mais à un moment donné, il faut que tu la gères, ta colère. Mm-hmm. Et en tout cas, ce petit livre-là, je sais probablement qu'il se trouve encore. Ça s'appelle tout simplement « Grosse colère ». Puis s'il y a des parents qui peuvent mettre la main dessus, moi, je sais que ça m'avait sauvé la mise, vraiment.
Bon, je vais l'acheter pour moi. Ça va m'aider. Je ne vais pas briser mes beaux jouets. Ça va me mettre en maudit, tu vois. C'est l'enchaînement. Et c'est ça le problème avec les émotions. Quand on est en détresse, Mme Asselin, c'est qu'elle tourne en rond. Fait qu'on peut s'alimenter à sa propre colère sans arrêter. Est-ce que la crise du COVID, dans les appels que vous recevez, vous avez l'impression chez les parents et chez les enfants que les familles se sont plus isolées un peu chacun dans leur coin ou qu'ils affrontent ça plus ensemble?
C'est une bonne question. J'ai l'impression que l'isolement des familles a joué un grand rôle dans la détresse, c'est sûr, parce que tout le monde était centré sur son propre quotidien qui change, qui se modifie, tout le monde s'adaptait. Puis en même temps, on est dans une ère aussi où les familles se comparent. On pouvait voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, des familles qui disaient « Ah, ben nous, on prend du temps en famille, c'est du temps qu'on n'aurait pas pu espérer, c'est super », mais ça pouvait être confrontant pour des familles qui, elles, vivaient vraiment beaucoup de difficultés. Donc, je pense que c'est important dans des moments difficiles comme ça de pas se comparer. Chaque famille a ses défis. Ce qui est montré sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas nécessairement la réalité. Faut pas l'oublier. Mais pour répondre à votre question, j'ai l'impression que chaque famille est un peu centrée sur sa réalité. Il y a des parents qui ont perdu leur emploi. Il y a des parents qui devaient gérer avec des jeunes enfants le télétravail. Donc, la routine était chamboulée. Il fallait changer les règles de discipline parce que étant donné que la situation est exceptionnelle, il faut que les règles changent.
C'est du télétravail, on peut pas jouer à plein volume derrière ça, c'est pas possible.
Exactement, exactement. Donc, c'était très confrontant. Déjà que le rôle de parent, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de règles claires, il y a juste des ondes d'incertitude, j'ai l'impression. Il faut y aller avec son instinct, mais là, je pense que l'instinct était pas mal sollicité. Là, dans cette période-là.
Oui, il n'y a pas de manuel d'instruction dans les nouvelles crises. Il faut apprendre sur place. Madame Asselin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a bien éclairé nos lanternes. Myriam D. Asselin, sexologue et coordonnatrice chez Tel Jeune. Renseignez-vous sur Tel Jeune. C'est tellement un organisme important. Merci beaucoup, Madame Asselin. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Merci. Julie, écoute, je me passionne et je suis content qu'on ait deux pis en train de se parler. C'est très agréable. Oui. Mais non seulement ça, mais on a le droit de parler. C'est le fun. Alors, je vais te garder pour le dernier bloc. On va juste faire une petite pause. On revient après.